بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc les deux derniers mardis, on n'a pas pu faire un de programme. Il y avait une fois, il y avait une réunion importante à la madrasa pour l'enseignement. Et puis, il y a deux semaines, la semaine dernière, je crois, il y a deux semaines, il y avait des émeutes, il y a des problèmes. Donc, là, c'était l'occasion aussi de se rendre compte quel ni'amat, hein, c'est ce qu'on appelle al-amn. Lorsqu'Allah Ta'ala, il donne al-amn, la tranquillité, la sécurité à une population, c'est une ni'amat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous comparons notre situation avec les musulmans qui habitent par exemple en Afrique du Sud, dans d'autres pays, où il y a en permanence des conflits, lorsque vous quittez votre maison, vous n'êtes pas sûr de retourner vivant, il y a quelqu'un qui peut vous agresser à n'importe quel endroit. Et nous, on voit qu'alhamdulillah, où on habite, ben, il n'y a pas ces problèmes liés à l'insécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle al-amn, ce qu'Allah Ta'ala avait garanti au Quraysh, al-Dalijahliya, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa amanahum min khawf. Ça, c'est une ni'mat. Lorsqu'Allah Ta'ala l'accorde à un peuple, ce peuple se doit d'être reconnaissant. Et al-amn, on ne va pas entrer dans les détails, mais la tranquillité et la quiétude totale, elle ne peut exister que lorsque la charia est appliquée. Le seul pays au monde où vous pouvez circuler, marcher 2h du matin, 3h du matin avec votre épouse, vos enfants et tout, sans que rien ne vous arrive, c'est Haramain, Makkah, Madina et toutes les villes qu'il y a, de manière générale. Parce que dans ces endroits, si quelqu'un vous attaque, il sait qu'est-ce qu'il attend. Si quelqu'un vole, c'est qu'est-ce qu'il attend. Donc ça, c'est la seule manière pour qu'une personne ait la quiétude, la sécurité complète toute sa vie sans qu'il y ait le moindre risque que quelque chose vous arrive. Vous voyez, enfin, ça c'était juste pour nous rappeler pourquoi mardi dernier on n'a pas fait programme, ce amn qui manquait. Hein, vous savez que même pour l'accomplissement du hajj, une des conditions, que s'il n'y a pas amn al-tariq, si le chemin n'est pas sûr, il n'y a pas de sécurité, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Regardez comment al-amn, la tranquillité, c'est quelque chose d'important. On demande à Allah Ta'ala de nous l'accorder encore plus que nous l'avons maintenant et que jamais nos vies ne soient en danger comme dans certains pays. Faïb. On avait vu les dernières fois certaines situations, le jour de la résurrection, le jour du hisab, pas le jour de la résurrection, le jour du hisab. Et parmi les choses qu'on avait vues, c'était lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala demandait au peuple, aux différents peuples, est-ce que vos prophètes vous ont transmis la révélation, le message, et que certains peuples reniaient, disaient non, personne ne nous est venu. Ma ja'ana min bashirin wa la nadhir. Alors, ces anbiya, alayhi musallatu wa salam, ils prendront en témoin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les personnes de la communauté, c'est-à-dire les gens comme nous, comme vous et moi, les personnes qui appartiennent à la communauté, à la Ummah du Prophète, ils attesteront que, oh Allah, nous approuvons que ces prophètes ont propagé leur mission. Ils ont accompli leur mission. Et là, les personnes demanderont comment, en ce sens, comment accepter le témoignage de personnes qui n'étaient pas présentes en ce moment. Si quelqu'un était à l'époque de Nuh alayhi salam, de Ishaq alayhi salam, etc., il dit comment quelqu'un qui a vécu 600, 700, 800, voire 1000 années après, il peut témoigner qu'un prophète est venu et qu'il nous a transmis alors qu'il n'était pas là. Et là, les personnes répondront que Allah nous a révélé un livre complet dans lequel il y a l'histoire des prophètes et il y a l'attestation de la part d'Allah que chaque prophète a propagé à son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera le témoignage des musulmans. Donc c'était quelques hadiths, quelques athars pour nous faire comprendre quelle sera la position de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de Qiyamah. On avait vu également, et ça c'était bien avant, mais il est bon en ces temps de troubles, de fitna, de revenir un peu sur ce point, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parlera à Isa alayhi salam au jour de Qiyamah. « La anta qulta linnas ittakhidouni » Là, ce genre de discours, il faut être clair et catégorique. Nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour l'entente, une entente cordiale entre toutes les personnes, mais lorsqu'on parle de Akhirat, c'est qat'i. Allah Ta'ala dira à Isa alayhi salam, au jour de Qiyamah, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme divinité en dehors d'Allah? Voilà, ma yakounu li. Puis le verset est un peu long, il dit que jamais je ne pourrais dire autre chose que ce qui est haq. Et si je l'aurais dit, oh Allah, in kuntu qultuhu faqad alimta. Si je l'avais dit, oh Allah, vous l'auriez su. Et Allah, il connaît que Isa alayhi salam n'a pas dit ça aux gens. Mais Allah, il veut que Isa alayhi salam le dise de sa propre bouche, bénit le jour de Qiyama, pour que les millions, les milliards de personnes qui ont cru en cette impie d'abord, qui a cette croyance erronée, transformée à travers les temps, ils entendent de leurs propres oreilles et ils voient de leurs propres yeux ce qu'ils considéraient comme ilah, comme divinité, attesté contre eux-mêmes, approuvé que cette croyance était totalement infondée, que cela ne venait pas de lui. Voyez. Et donc, on a tenu quand même à rappeler qu'est-ce qu'on avait fait il y a quelque temps de cela, parce qu'en ce moment, parfois, on peut avoir certaines idées, on peut entendre certains bruits, certaines rumeurs ou autre chose. Hein. Notre croyance sur Isa alayhi salam, c'est la croyance qui est haq, qui est véridique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé l'âme de Isa alayhi salam dans Maryam alayhi salam par l'intermédiaire de Jibril, qu'on appelle Gabriel en français, et qu'Allah ta'ala a donné naissance à Isa alayhi salam de cette manière miraculeuse, et qu'il a propagé sa mission jusqu'à un certain âge où il a été trahi par des proches. Cela lui a été annoncé par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala il a prévenu que voilà, telle chose va arriver, et d'agir de telle manière avec tes disciples. Et Isa alayhi salam avait demandé, qui parmi vous est d'accord pour prendre mon apparence, le sacrifier à ma place? Et là, un des jeunes apôtres a pris l'apparence de Isa alayhi salam par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque les ennemis sont entrés pour emprisonner Hazrat Isa alayhi salam, ils ont pris un des apôtres qui avait eu la physionomie, l'apparence de Isa alayhi salam, et Allah ta'ala avait déjà élevé Isa alayhi salam. Et il faut le noter également que là où il y a accord entre notre dîn et certaines autres religions, c'est qu'avant la fin des temps, comme on l'avait déjà vu avant, Isa alayhi salam reviendra. Et lorsqu'il retournera sur la terre, il propagera la vérité. Et il suivra la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il enseignera aux gens en fonction du Coran. Et il expliquera aux gens, il prouvera aux gens quelle est la véritable croyance qu'un être humain, qu'un musulman doit avoir en lui. Voyez ? Elle, Inch'Allah. Et cette compréhension doit éveiller en nous un désir de hidayah pour les gens. Si nous avons de l'amitié, de l'affection pour des personnes qui n'ont pas iman, soit de l'humain du travail, ou même des amis d'enfance, ou liens de voisinage, des personnes que nous estimons, voyez, que nous aimons bien, vraiment, et que nous nous rendons compte que ces personnes n'ont pas iman, vous allez laisser ces personnes mourir sans iman? Ça veut dire que cette affection, ce muhabbat n'est pas sincère. L'exemple qu'on avait donné une fois, vous avez un voisin, on avait déjà dit, mais on le répète, un voisin qui vous dit que c'est quelqu'un, il sort, je ne sais pas dans quel pays, il ne connaît rien. Il ne connaît même pas ce qu'un doliprane, un feraldon, c'est-à-dire en termes de médecine, de soins, il ne s'y connaît pas du tout. Il dit que voilà, j'ai très mal à la tête. Le docteur m'a dit de faire des radios. Il a dit, ben, on m'a mis dans une grande machine, ronde, comme une machine à laver, un tourné, des trucs autour. Et à la fin, le docteur a dit, j'ai une tumeur. C'est un cancer, c'est grave. Elle dit, je sais pas, il faut opérer, sinon, moi, on dit, connais, la personne dit, moi, j'écoute pas les docteurs, moi. Moi, j'ai une tisane chez moi, hein, depuis l'époque de mon grand-père, une tisane, vous buvez ça, et votre mal de tête s'en va. Et je me suffirai de ça. Il m'a dit, vous pêchez chimiothérapie, je sais pas quoi, je me veux mourir, ça va se généraliser. Il dit, les docteurs, le jeu, c'est n'importe quoi. Ça, c'est quelqu'un que vous aimez bien, c'est un voisin. Il ne s'y connaît rien en médecine. Vous allez le laisser comme ça? Il m'a dit, ben, c'est bon, ben, nous les frères, de toute façon, hein, liberté d'expression, je crois en la médecine, vous croyez en tisane, c'est pas grave, tout le monde pratique. Vous allez le laisser? Si vous le laissez, vous êtes malade. C'est-à-dire que vous n'avez pas un réel attachement pour cette personne. Vous savez que si vous allez le laisser, vous ne lui faites pas comprendre la réalité. Qu'effectivement, regarde cette radio, ça c'est quelque chose de grave. Quand vous avez un problème comme ça, ça peut déboucher sur telle chose. En un mois, vous perdez vos fonctions vitaux, vous mourrez, etc., etc. Si vous ne lui expliquez pas, ben la personne va mourir vraiment. Et vous aurez une part de responsabilité parce que vous ne lui avez pas expliqué le haq, la vérité. Alors maintenant, quand cela concerne l'éternité d'une personne, c'est-à-dire que lorsque ses yeux ferment, soit c'est le paradis, depuis le qabar, c'est le jardin du paradis, et puis là où c'est résurrection avec les anbiya, etc., et le paradis, ou alors c'est la tombe, c'est un trou de l'enfer, et mahshar avec Pharaon, Qaroun, Haman, et le jahannam jusqu'à pour l'éternité. Alors, est-ce qu'on a vraiment de muhabbat pour ces gens? Si vraiment dans nos cœurs, nous apprécions des personnes qui n'ont pas d'iman, à nous d'aller vers eux, et de les donner da'wat vers la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est pour ça que comprendre quels seront les débouchés de la résurrection, il n'y en a que deux. Cela nous fait comprendre également quel est notre rôle dans cette dunya. Que si quelqu'un rentre dans le Jahannam, quelqu'un qui a habité dans notre immeuble, dans notre entourage, et que nous n'avons jamais, je parle pour moi en premier, Wallahi Azi, et que nous n'avons jamais eu le courage de lui dire, de lui inviter vers l'adoration d'Allah, ben nous avons une part de responsabilité. Parce que nous avons fréquenté ces gens, hein, si la personne avait besoin de quelque chose, on était là, mais concernant son futur, l'éternité qu'il va passer, on n'a pas fait un effort vers cette personne. Et c'est ça le problème, parfois nous avons un excès de gêne qui fait qu'on a l'impression que les personnes vont croire qu'on est archaïque, qu'on est je ne sais pas quoi, mais comme si on a honte du iman. On a honte d'inviter quelqu'un vers la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah nous donne les qualités que les sahaba avaient, inshallah, de ce domaine. Donc, pour revenir à ce verset, le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala appellera des personnes qui, durant leur vivant, c'est-à-dire dans ce dunya, ils adoraient d'autres choses qu'Allah. Ils adoraient soit des idoles, soit autre chose, c'est-à-dire ils étaient dans le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ces gens d'invoquer leur divinité. Allah demandera à ces gens pour qu'ils comprennent bien qu'ils étaient dans le faux. Maintenant, en ce sens, vous-même, invoquez les divinités que vous avez adorées durant toute votre existence et regardez si ces personnes, si les divinités vont vous aider. Vous voyez? Et à la fin, Allah Ta'ala dit que ces gens-là, lorsqu'ils vont voir le azab, ils yarawna al-azab. Ils vont comprendre que tout est dans les mains d'Allah, c'est Allah qui a la véritable puissance. Donc même si dans le dunya, il y a des gens qui s'obstinent à dire que non, tel dîn aussi c'est haq, nous avons telle croyance, nous sommes nous aussi sur le droit chemin, etc., etc., et que vous essayez de leur expliquer, d'apporter la vérité, d'essayer de démontrer quel est le véritable iman, et que la personne n'accepte pas, ben en tout cas le jour de Qiyam, quand ils vont voir la réalité, haqiqat, de la résurrection, du mahshar, du hisab, là, ils yarawna al-azab, lorsqu'ils vont voir de leurs propres yeux, là, malheureusement, mais ce sera trop tard, les personnes comprendront quel était haq et quel était batil. Et à tel point, ces personnes seront désemparées qu'ils diront à Allah, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Ils vont dire à Allah que nous ne faisions pas le shirk de ce dunya. Là, le jour de la résurrection, ils vont renier, ils vont rejeter ces divinités qu'ils ont adorées durant toute leur vie. Voyez. Également, Allah Ta'ala pour montrer à ces gens que ce qu'ils faisaient c'était batil, Allah Ta'ala fait en sorte que les divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux-mêmes, ils vont repousser les personnes qui les adoraient. Je cherche le verset. Subhanallah, je ne trouve pas le verset. Donc ces personnes eux-mêmes, ces divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah, ils pourront parler, ils pourront s'exprimer, et eux-mêmes, ils dénigreront les personnes qui les avaient pris comme ilah, comme divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et alors que lorsque les anbiya, alayhi salatu wa salam, invitaient ces personnes vers l'adoration d'Allah, la formule qu'ils répétaient en permanence était quoi? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Wa inna ala atharihim muhtadun. Voyez, à chaque fois que les anbiya les invitaient vers l'adoration d'Allah, ils disaient que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont toujours adoré telle divinité, et donc nous restons sur le millah, nous restons sur la religion de nos ancêtres. Et on a exclu de ce livre que très souvent l'origine du shirk, hein, il relate l'histoire à l'époque après Nuh alayhi salam, quelle est l'origine du shirk? Hein, comme les mouchikins disaient, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Il y avait cinq divinités que les gens adoraient avant. وَدَّ سُوَاعَ يَغُوثَ يَعُوقَ نَسْرَ. Et je ne me trouve pas, c'est Ibn Kathir ou quelqu'un d'autre qui explique que ces personnes, ces cinq divinités, avant c'était des hommes pieux, des personnages pieux que les gens considéraient à l'époque. C'était, à quelle époque? Entre l'époque de Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam. Et lorsque ces gens pieux sont décédés, lorsqu'ils ont quitté ce dunya, alors certaines personnes, ils ont été induits en erreur, par Shaitan, et Shaitan nous a dit que ben, il vaut mieux représenter ces personnes. On va dessiner le visage, l'apparence de ces gens, afin que lorsqu'on va voir ces personnes, ils nous rappelleront Allah, ils nous rappelleront comment ils étaient fervents, dans l'ibad, dans l'adoration d'Allah, et donc nous aurons encore plus de motivation pour adorer Allah. Et lorsque ces personnes-là, cette génération, elle est morte, elle est décédée, Shaytan est venu et il a induit en erreur les générations d'ensuite. Et on dit que c'est nos ancêtres, ils adulaient ces personnes, ils invoquaient, ils demandaient les doigts à ces personnes. Donc vous aussi, vous devez perpétuer ce culte. Et peu à peu, les gens, ils ont commencé à se courber ou à demander intercession avec ces divinités, avec ces représentations, ces icônes. Et puis peu à peu, ils ont sombré dans le chiffre, dans le polythéisme. Ils ont adoré ces statues qui représentaient à l'origine donc des personnages. Alors pourquoi cette histoire? Parce que très souvent, on voit que le piège de Shaytan se répète de génération en génération. Très souvent, même si Shaytan ne peut pas nous avoir avec ce genre d'argument pour adorer d'autres choses qu'Allah, dans la religion, Shaytan, il nous fait dire que, ben voilà, si nos parents, ils ont toujours eu telle habitude, telle tradition, on va perpétuer ça. Et c'est exactement ce problème que souvent on rencontre lorsque, dans la réunion, il n'y en a pas, mais dans certains endroits, il y a des personnes qui perpétuent des bid'ahs, des innovations. Une personne m'a envoyé un mail récemment, et dans ce mail, il explique que voilà, c'était une personne d'une autre religion en Inde, on va pas citer la religion. Il dit que voilà, il a toujours été attiré par la religion officielle de ce pays, mais en même temps, il avait un penchant pour l'islam. Et lorsqu'il connaissait bien la religion officielle du pays, et puis il a visité les mosquées, il a observé la pratique des musulmans, et il a dit que ben, tout compte fait entre ces deux religions, c'est juste une question de nom. Autrement, c'est les mêmes rites, c'est les mêmes célébrations. Et là, photo à l'appui, c'est un mail qui est assez écoulé sur Internet, hein, et il montre que dans différentes situations, comment, et cette personne, c'est un livre qui envoie ses photos, il dit que malheureusement, regardez comment lorsque les musulmans, ils ont sombré dans les bid'ahs, dans les innovations, avec tout le système de dalra, de tombes, des aouliyas, où il y a des endroits où on vient visiter, on vient déposer des offrandes, etc. Et comparer les photos des dargas, je crois que ça s'appelle, comparer les photos des dargas avec les photos des autres religions, c'est exactement la même chose. Et il y a des photos superposées, vous comparez, vous retrouvez les mêmes scènes avec des offrandes, des fruits, des bougies, tout ça, tout ça. Et la personne dit qu'on fait ces deux religions, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence, donc je suis adepte des deux religions. Et bon, là c'est à une échelle vraiment très poussée, mais parfois même dans des bidades beaucoup plus infimes, difficiles à percevoir, lorsqu'on essaie d'expliquer aux gens pour faire attention, Allah Ta'ala n'a jamais demandé de faire telle chose. Au Nabi Karim, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, durant les 13 années à Mecca et les 10 années à Madina Munawwara, il n'a jamais montré aux Sahaba de faire telle action. Hazrat Abu Bakr al-Siddiq, pendant les deux années et demie de son khilafa, il n'a jamais expliqué aux gens qu'il faut faire tel a'mal. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu ajma'in, et également de la Dawla Umayya, de la Dawla Abbasiyya, il n'y a jamais eu telle pratique. Pourquoi vous le faites aujourd'hui? Il dit que oui, mais nos ancêtres ont toujours fait. Le Dada, ils ont toujours fait. Alhamdulillah, il y a une époque où les premiers ulama qui sont venus à la Réunion, ils ont trouvé certaines pratiques qui sortaient du cadre de la Sunna. Alhamdulillah, ils ont pu ramener les gens vers le droit chemin. Et malheureusement, lorsqu'on analyse le premier argument des gens, qui depuis 15, 20, 30 ans, ou depuis leurs parents, leurs grands-parents, ils ont toujours eu l'habitude de faire quelques pratiques, ils disent que ben, nos parents, ils ont toujours fait. Nos grands-parents, ils ont toujours fait. Et regardez, c'est le même piège de Shaytan. Inna wajadna aba'ana ala umma. Nos parents, ils ont fait, ben nous aussi, on fait. Et donc, quand on a des innovations dans notre communauté, ben, il faut savoir que, par exemple, on va voir les musulmans en Asie, ben, ils auront leur propre pratique que leurs parents, ils ont toujours fait. Vous allez en Afrique, ils disent que nos grands-parents, ils ont toujours fait comme ça. Vous allez dans tel continent, nos grands-parents, ils ont toujours fait comme ça. Ce qui fait qu'à la fin, vous ne retrouvez plus le dîn de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous retrouvez un noyau avec plein de choses qui ont été rajoutées. C'est exactement comme le prophète dit que je vous ai laissé deux choses, le Coran et ma sunna. L'un tamassouk, c'est attraper fermement. Je vous ai laissé deux choses, si vous restez ferme dessus, vous ne serez jamais égaré. Le Coran et mes hadiths. Et avec compréhension des tabi'in, tabi'in, Bukhari, et interprétation fiqhi de l'imam Abu Hanifa, et chacun sur l'autre matin, Mahdi Shafi Ahmed. Donc si nous suivons ces a'imma, le pratiquant de l'aqidah, tant de l'a'mal, ben nous sommes sûrs que nous resterons sur le droit chemin. Et donc, ça c'est juste pour qu'on comprenne que, comme Shaytan a induit en erreur certaines personnes avant pour les amener vers le shirk, ben Shaytan parfois, il fait usage des mêmes méthodes pour induire en erreur des gens pour les enlever de la sunna mutahara, de la sunna pure, vers des innovations. Voyez, Allah nous protège. Également, on va terminer encore 24, encore 6 minutes, Inch'Allah, pour rester sur les 30 minutes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est, en fait c'était ça vraiment le sujet d'aujourd'hui, avant qu'Allah commence le hisab des personnes de manière individuelle, Allah subhanahu wa ta'ala fera le hisab, les comptes des populations entières, des pays tout entiers. S'il y avait un pays qui a opprimé un autre pays, ou une ville, ou une population qui a fait du zulm, de l'oppression sur une autre population, Allah subhanahu wa ta'ala jugera ces gens avant de commencer le hisab, les comptes pour chaque individu. Et ce qu'on peut être sûr, c'est que le jour de Qiyamah, ce n'est pas des ONG, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas le tribunal de la Haye, en Amsterdam, autre chose, qui va juger des peuples, c'est Rabbul Izzah. Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawmiddin, le seul maître, le jour de Qiyamah, et il y en a eu des peuples qui ont été opprimés. Il n'y a pas besoin de photos, il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de noms. Depuis combien d'années on voit certains peuples opprimés par d'autres, et il y a des gens qui se disent parfois, mais attendez, les opprimés, ce sont des musulmans. Et les oppresseurs, ils n'ont pas iman. Pourquoi Allah Ta'ala ne terrasse pas l'oppresseur? Et parfois, ça peut être un fitna. Une personne peut être induite en erreur par Shaytan, qui vous fait dire que si vraiment Allah existait, il n'aurait pas aidé ces gens qui se prosternent 5 fois par jour, il n'aurait pas donné izzat à ces personnes sur les gens qui sont en train de terroriser, qui sont en train de les opprimer, qui sont en train de faire du tort à ces musulmans depuis des générations. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça c'est une promesse d'Allah. Pour certains péchés, pour certains crimes, pour certains vols, oppressions à grande échelle, Allah Ta'ala a décidé de garder le hisab au jour de Qiyamah. Il y a un tafsir que la prochaine fois on va expliquer ça, ça prendrait trop de temps. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Si Allah avait voulu, Allah aurait fait une justice immédiate sur ce dunya. Un vol, une oppression, Allah éteindra sa personne tout de suite. Un péché, Allah est puni tout de suite. Mais si, une question peut se poser. Si à chaque fois que quelqu'un faisait du tort à un musulman, immédiatement Allah Ta'ala a envoyé la la'na, la malédiction, Allah Ta'ala a terrassé cet oppresseur. Est-ce qu'il y aurait encore une personne qui n'aurait pas iman sur ce dunya? Ben non. Tout le monde aurait vu que lorsqu'on attaque un musulman, ben immédiatement on est puni, on est exterminé. Donc c'est vraiment dinha. Il n'y aurait plus eu de ilm ul-ghayb. Ça c'est complexe. Il n'y aurait plus besoin de iman intérieur pour croire en la promesse wa'ad wa'id, la promesse de l'existence d'Allah, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les gens ils auraient des preuves palpables. On voit que quand on fait du tort à un musulman, ben le Dieu punit immédiatement. Donc le Dieu existe. Donc nous rentrons dans cette religion. Ben tout le monde serait devenu musulman. Mais Allah, et de même, par exemple, donc on peut se dire, mais pourquoi dans certains pays pauvres, dans certains pays, c'est des musulmans qui meurent de faim. S'ils adorent Allah, Allah Ta'ala aurait dû leur donner plus de risques que quelqu'un qui adore d'autres qu'Allah. Mais ça aussi, ça peut être perçu comme un fitna pour les gens. Si Allah Ta'ala a décidé que telle personne meurt de faim malgré son iman, Allah Ta'ala lui accordera une place spéciale, je dirais rien. Maintenant, imaginez que toutes les personnes qui ont iman, ils sont riches et célèbres. Ils sont riches, ils ont toute la notoriété, ils ont tout dans ce dunya. Mais l'univers entier serait rentré dans l'islam. On dit que quand quelqu'un dit la ilaha illallah, tout de suite des montagnes d'argent apparaissent. Mais tout le monde serait devenu musulman. Alors que les gens voient qu'il y a des musulmans qui sont opprimés, il y en a qui meurent de faim, qui sont pauvres. Mais là, il y a besoin de iman pour adhérer à la religion. Ce n'est pas parce qu'on voit les gens qui ont les biens, là on va entrer dans le dîn. Tout ça, ça fait partie de la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a maintes et maintes ayats de lesquels Allah il promet que la justice finale, ce sera là-haut, pas ici. Même si des générations et des générations sont exterminées. Sur 300 ans, il y a des gens, il y a 10-15 millions de personnes qui sont mortes. Il ne faut pas chercher la justice de ce dunya. Car, pour certains cas, Allah a promis la justice dans le akhir, le jour de la résurrection. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Différents versets. Allah hein, il fera la justice entre vous le jour du Qiyam. Fasbiru hatta yahkum Allahu baynana. Faites preuve de patience jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala il fasse la justice entre nous. Tabdat biasi. Wa inna rabbaka la yahkum baynahum yawm al-qiyam. Allah Ta'ala il fera la justice entre eux le jour du Qiyam. Al-mulku yawma idil lillah yahkum. Etc. etc. Plein de versets dans lesquels Allah il promet la justice, pas de ce dunya, la justice, le jour de Qiyam. Et on terminera avec le dernier point, même parmi les injustices qu'il y avait entre des peuples, entre des communautés de pays envers d'autres pays, ce qu'on appelle des génocides, des exterminations de populations tout entières, et même si, et on a dit que même si l'oppresseur était musulman, et l'opprimé n'était pas musulman, s'il y avait injustice, là aussi Allah Ta'ala fera la justice le jour de Qiyam. Et maintenant, à un autre degré, lorsque, c'est un autre sujet, on va garder pour la prochaine fois, également, on va terminer avec un dernier hadith, parce que sinon on va partir dans un autre sujet, on ne finira pas. Également, lorsqu'il y a des oppressions entre les gens, on ne va pas répéter le hadith du Mouflis, on avait déjà répété ça au moins 5 ou 6 fois, lorsqu'une personne a fait du tort à son prochain, hein, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que lorsqu'Allah Ta'ala a envoyé ce verset, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, que les disputes, hein, les querelles, etc. seront, en ce sens, seront répétées le jour de Qiyamah auprès d'Allah. Alors Hazrat Az-Zubayr radhiyallahu anhu dit au prophète d'Allah, أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا, est-ce que, en ce sens donc, est-ce que le jour de Qiyamah, les litiges qu'il y avait eu entre nous, entre les hommes, seront répétés le jour de Qiyamah? Le prophète m'a dit Naam, la yukarriranna alaykum. Le prophète m'a dit Hatta yuadda ila kulli di haqqin haqqa. Le prophète m'a dit que oui, tout ce qu'il y a eu comme litige, comme injustice, sera répété le jour de Qiyamah afin que chaque personne prenne son droit. Quand il y a eu injustice dans ce dunya, l'oppresseur, le zalim, il s'en est sorti. Et l'opprimé, il est resté opprimé et faible. Personne n'a pu l'aider. Mais Allah Ta'ala, hein, c'est comme on fait parfois, enfin, on voit reconstitution des scènes du crime. Hein, on refait les mêmes gestes pour voir comment ça s'est passé. Je veux dire, Ahmad, les scènes d'oppression seront répétées et là, Allah Ta'ala fera la justice et pour rabaisser l'oppresseur et pour donner haq, pour donner son droit à la personne qui était opprimée. Et là, Azoubaï dit, Wallahi, innal amra la shadid, au prophète d'Allah, ce sera difficile. Parce que si la moindre des choses qu'on a fait à notre prochain sera revécue le jour de Qiyamah pour qu'Allah fasse faillissement, fasse véritablement justice, alors nous avons de quoi craindre. Ça c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam, le grand sahaba, qui le dit. Alors n'en parlons plus, quelle sera notre situation si nous avons été injustes envers nos proches, envers nos employés, envers nos collègues, envers qui que ce soit, musulmans comme non-musulmans, nous devons avoir cette crainte d'Allah que cette situation sera répétée le jour de Qiyamah et Allah Azzawajal fera véritablement la justice. On dira ce hadith, mais le hadith, si une personne mémorise ce hadith, et comme à chaque fois on avait dit que parfois il y a des hadiths qu'on doit mémoriser, qu'on veut faire un péché, on avait dit il y a 5 ou 6 mois, qu'on pense tel hadith sur les anges qui inscrivent les actions, tel hadith comment chaque action sera visible le jour de la résurrection, Allah Ta'ala fera reconnaître. Quand on a fait un péché, on pense ces hadiths, dit non, je ne peux pas faire ça, parce que je vais voir ça le jour de Qiyamah. Et ce hadith-là, si on a envie de faire du tort à notre prochain, on pense le hadith, ben immédiatement on s'arrête. Le prophète sallallahu, ce sera la conclusion, le prophète m'a dit que le jour de Qiyamah, hein, les gens sont ressuscités, hein, sans circoncision, rourla, bourma, sans vêtements, également bourma. Ça veut dire pour Allah, ça veut dire quoi bourma? Bourma, ça veut dire que les gens n'auront rien avec eux. Ils seront les mains vides. Ensuite, ثم ينادهم بصوت, il y a une voix qui fera le i'lan que أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه. Allah Ta'ala fera ce i'lan que jamais une personne qui est destinée au feu de l'enfer ne pourra entrer dans le feu de l'enfer alors qu'il a des droits sur quelqu'un qui doit entrer au paradis. C'est-à-dire que si quelqu'un est prévu pour entrer dans le Jannah, mais qu'il avait fait du tort à quelqu'un qui était certes un pécheur, qui doit normalement aller dans l'enfer, Allah Ta'ala ne laissera pas la personne du paradis aller dans le paradis. Et la personne de l'enfer aller en enfer tant que cette injustice ne soit pas réparée. Et Allah dit ensuite, voilà, yambari li ahadi min ahli jannati an yadkhula al-jannah ولا لأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه. Et Allah dira, et pareil, jamais une personne destinée au paradis ne pourra accéder au paradis alors qu'une personne du feu avait un droit sur lui. Donc dans les deux sens, Taïb Allah Ta'ala appellera l'oppresseur et l'opprimé. Le musulman n'entrera pas dans le paradis s'il y a eu un temps de feu à une personne, même si c'est quelqu'un qui est destiné à l'enfer, tant qu'Allah Ta'ala ne fera pas la justice entre ces personnes. Et là, le Sahaba dit, qu'ulna wa kayfa wa inna innama na'ti Allah bughma. Mais au prophète d'Allah, mais comment Allah Ta'ala va réparer ses erreurs alors que, vous venez de le dire, que nous serons ressuscités les mains vides bughma, sans rien, pas d'argent pour compenser. Et là, le Sahaba dit, bil hasanat wa sayyi'at, par les bonnes actions et les péchés. Et cela rejoint le hadith qu'on a déjà expliqué, que l'oppresseur donnera de ses bonnes actions à l'opprimé, et il prendra des péchés de l'opprimé pour compenser les injustices qui avaient été faites sur terre. Vous voyez ? Et puis Mawlana explique que, regardez, même ensuite, après ces étapes, lorsqu'Allah Ta'ala, il va commencer à faire la justice, à rendre des comptes à Allah Ta'ala, subhanallah, entendra chaque personne individuellement, chaque personne rendra compte individuellement auprès d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala commencera par les péchés qui sont en relation avec les droits des gens. Pour qu'on comprenne bien comment il est important, certes, notre salat, notre rosa, notre hajj, notre umrah, notre dhikrullah, notre tilawat al-Qur'an, tout ça, ça fait partie des devoirs, des obligations. Le musulman, il le fait. Mais grande erreur serait le fait d'avoir, alhamdulillah, d'être en règle avec Allah Ta'ala en ce qui concerne hukukullah, les droits d'Allah, mais ce qui concerne les droits des gens, nous avons eu des dépassements ou des manquements, ça, ce serait une grave erreur. Et ça serait un piège de shaitan qui nous donne l'impression qu'on est dans le droit chemin. Parce qu'on, alhamdulillah, il y a alamat et sunnah dans les vêtements, dans l'apparence physique. Notre famille, madame, ils mettent chat, les enfants, ils vont madrasa, ils font hafz le Coran, etc., etc. Mais on doit l'argent à telle personne, on n'a pas rendu. On a été injuste envers telle personne, on n'a pas réparé l'erreur. On a humilié telle personne en public. On a fait ribat, on a fait tohma, on a accusé telle personne, on a fait telle chose. Alors, on doit bien prendre conscience du fait que ces injustices nous seront préjudiciables au jour de Qiyamah. Donc, si on a fait quelque chose de mauvais, on a rompu les relations avec quelqu'un, on n'a pas donné le droit à une personne, on a opprimé quelqu'un, il est de notre devoir de demander pardon à la personne de ce dunya et de réparer des erreurs commises afin que le jour de Qiyamah, nous n'aurons pas à brader nos bonnes actions lorsqu'Allah Ta'ala appellera chaque opprimé et chaque oppresseur. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq. Hein, et c'est un récit que j'ai raconté. On a expliqué récemment, c'est à Saint-Denis, une personne qui est assistante sociale me racontait quelque chose, ça m'a déchiré le cœur. Hein. Une personne qui dit que voilà, cette personne travaille dans un hôpital public, dit que donc il reçoit et il s'occupe plutôt des personnes âgées. Taïb, elle dit qu'il y avait une personne de votre communauté, donc quelqu'un de un musulman, un vieux, une personne, il m'a pas dit si c'était un monsieur ou une dame, elle dit que vous voyez que cette personne n'était pas occupée par ses enfants. Il voit que la personne était ce grand-père, voilà, cette grand-mère, elle était complètement délaissée par ses enfants. Elle dit qu'en tant qu'assistant social, j'ai convoqué les enfants. Elle dit, ben voilà, il faut s'occuper de vos parents, il faut faire telle chose. Cette personne me dit que j'étais choqué lorsque j'ai vu les enfants, c'est quoi, quand ils appellent, c'est tous les enfants, s'il y a trois, il y a trois qui viennent, il y a cinq, tout le monde doit venir. Lorsque j'ai vu ces enfants venir de mon bureau, cette personne a dit c'était des hommes barbus et des femmes voilées. Des hommes barbus et des femmes voilées. Elle dit, là, j'ai fait mon travail d'assistant social. Elle dit que voilà, il y a tel souci par rapport à vos parents, il y a besoin de telle chose. Je vous dis, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Elle dit, ça, ce sont nos parents, ça ne vous regarde pas. Hein, si on ne s'occupe pas d'eux, c'est notre problème, c'est pas votre problème. Alors, cette personne dit que je suis désolé, c'est vos parents, mais moi, je suis mandaté par l'État pour veiller sur les personnes âgées. Alors, c'est vous. Vous ne vous occupez pas de vos parents, je prendrai les décisions qu'il faut. Et là, les personnes, ils ont compris. La personne dit, mais comment, c'est des religieux? D'abord, elle dit, c'est des musulmans, alors que, en général, cette personne dit que, dans ce milieu-là, on ne voit pas de musulmans qui ne s'occupent pas de leurs parents. Il y a un certain respect par rapport aux parents de la communauté musulmane. La personne dit, attention, ça commence à se perdre. Déjà, il y a des cas comme ça. Elle dit, yeah.